Radio, cité Genève.
Genève internationale. Epiphana Monfaux.
Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de Genève Internationale et merci de votre fidélité à notre écoute. À seulement 25 ans, Shanley Clémo McLaren s'est imposé comme une figure engagée dans la lutte contre le cybersexisme, une forme insidieuse de violence en ligne qui cible principalement les femmes et les jeunes filles. Lauréate du Young Activity Summit 2024, elle a su transformer son indignation face à cette réalité en un engagement concret et inspirant à travers des campagnes de sensibilisation et des actions sur le terrain. Shanley Clémo McLaren s'attaque aux préjugés sexistes et milite pour un Internet plus sûr et respectueux. Dans cet entretien, elle revient sur son parcours, ses initiatives et les défis qu'elle rencontre dans ce combat essentiel pour l'égalité des genres.
Genève internationale.
Bonjour Shanley Clémo McLaren.
Bonjour, comment ça va ?
Bien, vous-même?
Bah ouais, super. Merci.
Vous êtes la présidente fondatrice de l'association Stop Ficha. Qu'est-ce que cette association d'ailleurs?
Alors l'association Stop Ficha, c'est une asso qui est née pendant le confinement en avril 2020 quand on était tous confinés et que nos vies se sont digitalisées. Et Stop Ficha, en fait, c'était un mouvement de riposte, de défense face à l'explosion des violences en ligne dont les femmes et les filles ont été les plus victimes en fait à ce moment-là. Et notamment via la création de comptes Ficha. Et donc les comptes Ficha, c'est quoi? C'est des comptes créés sur les réseaux sociaux comme Snapchat, Instagram, Twitter, Telegram ou autres, qui vont diffuser des contenus intimes de jeunes filles, de femmes, et même pas que des contenus intimes, parfois ça va juste être des photos normales, mais avec leurs données personnelles, leur nom, leur prénom, leur adresse, les contacts des parents, des frères, sœurs, l'établissement scolaire, etc., dans le but de les afficher, dans le but de les humilier, et vraiment faire un appel à la haine et à nuire leur vie. Et donc on avait un compte en France, un compte par ville, par département, et puis il y en a même eu en Suisse, en Belgique, dans d'autres pays francophones, mais aussi dans d'autres pays, en fait, à l'international. C'est vraiment un phénomène qui avait lieu partout dans le monde. Et donc nous, face à ça, en France, qu'est-ce qu'on a fait? On a vu l'impunité, j'ai vu l'impunité avec ma petite sœur. J'ai vu ce qui se passait, les réseaux sociaux qui ne modéraient pas et qui laissaient les victimes dans un danger énorme pour leur vie. Et donc à ce moment-là, je me suis dit comment, pourquoi ces contenus sont en ligne? Pourquoi c'est encore en ligne malgré les signalements? Qu'est-ce qui se passe? Et donc malgré les signalements, rien ne se passait. Et donc j'ai lancé le hashtag Stop Ficha pour dire stop au Ficha et avec les victimes et les survivantes dans le but de faire changer la peur de camp, la honte de camp et montrer qu'on est forte et qu'on ne restera pas silencieuse. Et donc ce hashtag, qui était un mouvement social finalement de riposte, est devenu un collectif, puis une association. Et aujourd'hui, Stop Ficha est une association de lutte contre le cybersexisme et les cyberviolences sexistes et sexuelles.
Ficha provient d'un terme argotique, on va dire. S'afficher, c'est cela?
En fait, Ficha, en effet, c'est le verlan, entre guillemets, d'affiche. Donc c'est vraiment un langage de jeune, Ficha. Voilà.
Est-ce qu'il s'agit d'une expérience personnelle ou d'un constat plus large?
Donc moi, personnellement, j'ai pas été victime de comptes Ficha, j'ai été victime de cyberviolence. Plusieurs fois, quand j'étais collégienne au collège, sur Facebook, je m'en souviens, il y avait des personnes qui faisaient des posts sur moi sur Facebook pour se moquer de moi. Donc je m'en souviens de ça, j'ai été victime de violence en ligne, je le suis encore aujourd'hui parce que je suis activiste. Et surtout, je suis une activiste qui défend les droits, et surtout les droits humains et les droits des femmes. Et ça ne plaît malheureusement pas à tout le monde. Et malheureusement, je subis des violences en ligne de temps à autre par rapport à ça. Mais en tout cas, la racine de mon combat, à la base, il ne provient pas du cybersexisme ou des violences en ligne ou des réseaux sociaux. C'est vraiment un combat qui est féministe contre les violences sexistes et sexuelles de manière générale et pour l'égalité de genre.
Pensez-vous que les plateformes numériques en font assez pour protéger les utilisateurs et utilisatrices contre le cybersexisme?
Je pense que les plateformes aujourd'hui essayent d'agir sur le cybersexisme et les cyberviolences sexistes et sexuelles. Elles font des communications, parfois en disant voilà, on a créé tel nouvel outil. Par exemple, Meta a récemment mis en place un nouvel outil récemment pour combattre la sextorsion. Mais par exemple, on voit des plateformes comme X ou par exemple les personnes bloquées, en fait à la base qui sont complètement bloquées de votre profil, peuvent maintenant continuer à accéder de votre profil. Donc ça dépend vachement des plateformes, mais de manière générale, quand on parle de toutes les plateformes, en réalité les plateformes tirent profit de la haine en ligne, tire profit du sexisme en ligne, tire profit des violences en ligne et donc les violences en ligne faites aux femmes et aux filles. Et finalement, c'est un combat qui nous touche, nous les femmes, parce que, rappelons-le, les femmes sont 27 fois plus susceptibles d'être victimes de violences en ligne que les hommes, mais en réalité, c'est un combat qui peut toucher tout le monde. Les femmes, les minorités, les personnes racisées et aussi les hommes finalement, parce que quand les droits des minorités sont remis en question, finalement, c'est les droits de tout le monde derrière qui sont à risque.
Qu'est-ce qu'elle devrait améliorer, ces plateformes ?
Il faudrait que ce soit complètement holistique. Il faudrait que ce soit sur leur moyen de signalement. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on signale ? Comment est-ce qu'on fait un signalement où il y a des réponses ? Comment est-ce qu'on fait pour suivre l'état de son signalement ? Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui disent, en fait, qui vont voir un contenu haineux en ligne et qui vont dire, en fait, je ne vais pas signaler parce que ça ne sert à rien. Et moi, ces personnes-là, je ne leur en veux pas, même si c'est pas bien. Je ne leur en veux pas non plus parce que j'y ai déjà pensé. Mais ce n'est pas de notre faute, à nous, citoyens. C'est pour le coup. Si on a cette réponse-là dans la tête, c'est parce que de l'autre côté, il y a un travail qui n'est pas fait. Et c'est le travail des modérations. Donc c'est un travail qui est vraiment holistique de leur part. Mais pour ça, il faut un engagement clair et un engagement qui soit international. Aujourd'hui, quand on discute avec les plateformes à l'échelle nationale, elles vont proposer quelques solutions. Mais ça va être des solutions plutôt basées sur la communication. Oui, nous pouvons communiquer sur ça, nous pouvons sensibiliser sur ça. Mais quand il s'agit de vraiment changer des choses qui sont dans les paramètres, dans l'architecture de la plateforme, c'est aux États-Unis que ça se passe, là où il y a les maisons mères des plateformes. Et c'est un peu compliqué de changer les plateformes quand on touche à leur business model. Donc c'est comme le même sujet que pour le climat. Quand on fait face à des grandes multinationales qui mettent en danger la planète, là c'est exactement le même sujet. On fait face à des multinationales qui malheureusement impactent nos droits à tous et toutes.
Genève internationale. Epiphana Monfo.
Nous sommes en compagnie de la présidente fondatrice de l'association Stop Ficha, Chandler Clémo McLaren, au Palais des Nations où se tient cette cérémonie de remise des prix YAS 2024. D'ailleurs, Chandler Clémo McLaren en est une lauréate. Elle est originaire de la région parisienne en France. Quel rôle alors les gouvernements, les institutions éducatives et les familles peuvent-ils jouer pour prévenir le cybersexisme ?
Je trouve que la question, elle est très juste parce que vous incluez tout le monde. Et pour moi, il faut vraiment inclure tout le monde, c'est-à-dire les profs, les élèves, les étudiants, les CPE, donc l'enseignement, l'école, etc. Puisque là, c'est la racine des inégalités. Et les premières inégalités, y compris de genre, se jouent dans les cours de récréation, dans les salles de classe, et donc adresser la racine du problème et faire de la prévention, de la sensibilisation en milieu scolaire et mobiliser le personnel, c'est important. Donc à travers la sensibilisation. Les États ont une responsabilité aussi pour réguler les plateformes, parce que les plateformes ne peuvent pas s'autoréguler. C'est comme si on disait à des entreprises, des multinationales qui nuisent à la planète, autorégulez-vous. Ben, en fait, ça ne fonctionne pas, et là, c'est la même chose. Donc les États, c'est leur rôle, c'est de réguler les plateformes, et on l'a vu à l'échelle de l'Europe. Il y a eu le Digital Services Act, qui est venu pour la première fois réunir tous les États européens pour faire face aux plateformes et les réguler. Et finalement, quand on fait face aux multinationales, il faut que les réponses se fassent de manière transnationale avec plusieurs États. Sinon, malheureusement, c'est compliqué. Moi, je dirais que c'est ça le rôle un petit peu des États et puis les plateformes, un rôle de régulation de moyens à mettre en œuvre pour que ce soit un environnement sain pour tous, et pas que sur les questions de violence en ligne, mais même sur la question de santé mentale, sur les questions d'addiction. Combien de jeunes aujourd'hui souffrent d'addiction des réseaux sociaux ? Il y a eu des impacts énormes sur la santé mentale. Ma génération et les générations à venir sont celles qui sont nées avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a des gamins qu'on voit dans les poussettes avec des téléphones portables, etc. On est nés dedans, mais on a une bombe entre les mains. En fait.
Justement, comment sensibiliser les jeunes à adopter des comportements déjà respectueux en ligne et encourager à dénoncer le cybersexisme ? Au-delà de cela, comment arriver aussi à ce détox des jeunes vis-à-vis des réseaux sociaux ?
La question des jeunes, moi je suis en contact quotidien avec les jeunes et malheureusement on est tous addicts aux réseaux sociaux. On est tous addicts.
Vous l'êtes également ?
Ah moi j'assume totalement. Moi je suis aussi addict aux réseaux sociaux, j'essaie de diminuer et c'est pas super facile, mais je sais que je suis pas la seule et que c'est pas moi, mais c'est un constat généralisé.
Mais c'est aussi vous, personnellement, dû à votre travail, de faire de la veille sur les réseaux sociaux, non ?
Ouais. Moi, j'ai un travail de veille à faire sur les réseaux sociaux, de voir ce qui se passe, suivre les tendances, etc. Parce que c'est mon travail de militante, ensuite d'alerter sur ce qui se passe et de faire en sorte que quand je vois quelque chose de grave ou de très dangereux, une tendance dangereuse, en fait, de la signaler, d'en parler et de sensibiliser. Donc moi, c'est vraiment dans une optique de militantisme, de travail, de veille, mais aussi de sensibilisation via mes réseaux sociaux. Mais après, de manière générale, nous, les jeunes, on est extrêmement impactés et on ne trouve pas les clés, on n'a pas forcément les outils. On a conscience du fait que ça nous nuit, mais comment est-ce qu'on se détoxe ? C'est une grande question. Et je pense que ça concerne les jeunes parce que, comme on se le disait, on est né avec. Mais je pense que les adultes aussi sont addicts. Il y a de plus en plus d'adultes qui ont 40, 50, 60 ans qui téléchargent TikTok. Regardez dans les transports. Regardez dans les transports, il y a tellement d'adultes qui sont sur TikTok. Alors que TikTok, à la base, c'est réputé pour être que pour les jeunes.
Comment sensibiliser alors les jeunes aux comportements respectueux sur les réseaux sociaux ?
Via de la prévention et de la sensibilisation. Parce que finalement, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est un reflet de ce qui se passe dans nos vies physiques. Les inégalités de genre, les violences, la haine raciste, la haine sexiste, dans les cours de récréation, dans la rue, dans les transports. Sur les réseaux sociaux, c'est juste un terrain de plus, finalement, où il y a ces violences ou ces inégalités. C'est un continuum de la vie physique à la vie numérique. Mais le danger avec la vie numérique et la spécificité, c'est que ça amplifie et ça exacerbe ces violences-là, ce qui renforce du coup l'impact sur les victimes.
Quels sont les défis ou les difficultés que vous rencontrez dans votre militantisme ?
Les difficultés que je rencontre dans mon militantisme, je dirais qu'elles sont multiples. Moi, je suis vraiment au croisement du milieu féministe et du milieu numérique. Et donc, quand on fait face à un système qui est bien établi, dont les fondations sont bien établies, en fait, comme un château qu'on a devant nous, en fait, une forteresse, comment est-ce qu'on casse les pierres ? Et donc, en tant qu'activiste, on a l'impression qu'on casse les pierres petit à petit avec un petit marteau. Et donc, du coup, on peut facilement se retrouver dépassé par la situation, dépassé par le système auquel on fait face. Et donc là, quand on a le croisement entre le féminisme et le numérique, on a une forteresse qui est énorme. On fait face au patriarcat, on fait face aux plateformes des big tech. Donc voilà, mais en fait, c'est ça un peu la difficulté que j'aurais, et de célébrer les petites victoires. Moi, j'ai tendance à pas célébrer les petites victoires, même si je devrais, je le dis à tout le monde autour de moi de le faire, mais j'apprends à le faire. Et donc voilà, célébrer les victoires, et aussi, je pense que l'union a fait vraiment la force. Et donc, l'édition de cette année du Young Activist Summit, c'était Go Together. Et du coup, pour moi, l'union a fait vraiment la force, et d'être plus nombreux à dénoncer ce qui se passe sur les réseaux sociaux, à demander une prise de responsabilité, de l'action, à sensibilisation aussi à notre échelle, à ceux qui nous écoutent. Vous pouvez regarder ce qu'on fait sur Internet, vous renseigner sur les dangers des réseaux sociaux, sur les cyberviolences sexuelles, les cyberviolences, la haine en ligne, et puis en parler autour de vous. Et même ça, ce serait un grand acte quotidien. Mais jamais dans l'optique de culpabiliser les gens pour leur usage des réseaux sociaux, puisqu'on le fait tous, en vérité, on est tous dans le même bateau, ou de dire éteins ton téléphone ou passe moins de temps, mais plutôt dans l'optique de comprendre, sensibiliser pour ensemble mieux combattre.
Que signifie pour vous être reconnu au Young Activist Summit et comment cela pourrait-il amplifier votre combat ?
Cette reconnaissance au Young Activist Summit, je m'y attendais vraiment pas. Je travaille à l'échelle nationale, européenne, internationale aussi, mais c'est vrai que parfois on a du mal à voir la lumière finalement. On est dans un tunnel. Vous voyez, quand on est au travail, on dit souvent « ouais, là je suis dans un tunnel, on y va à fond ». Mais nous les activistes, on a un tunnel qui est constant. On n'a pas vraiment de déconnexion entre vie professionnelle, vie militante, vie privée. Et donc on est dans ce tunnel, dans ce brouillard, dans cette nage, et finalement on n'arrive pas à voir le bout, la lumière. Et donc être invité dans des endroits comme les Young Activist Summit, c'est finalement une lumière. C'est une lumière pour nous, individuellement parlant. Ça nous donne de l'espoir, mais aussi collectivement, ça nous donne la force. Là, je vois les activistes qui sont avec moi aujourd'hui. Quand on est ensemble, il y a une fusion, il y a une énergie, et on est sur des sujets hyper différents. Mais finalement, on a vraiment besoin d'être ensemble, et c'est en ça que le Young Activist Summit, il est précieux. C'est que nous, les activistes, ça nous donne un endroit pour s'unir, et où on se comprend, et on peut se soutenir. Et aussi, j'ai vu dans le public qu'il y avait énormément de jeunes, et donc c'est aussi leur donner les outils en direct pour que eux-mêmes deviennent acteurs de changement. Et puis il y a aussi les diplomates, on est au cœur du multilatéralisme, c'est aussi leur donner les outils à eux, vous pouvez agir également.
Et vous qui êtes également employé au ministère français des Affaires étrangères, vous arrivez à concilier votre vie de fonctionnaire à celle d'activiste ?
Eh bien, je dirais que finalement, c'est des sujets qui sont très très liés. Donc par exemple, au ministère des Affaires étrangères, je suis conseillère sur les questions de genre et numérique. Stop Ficha, je milite contre le cybersexisme. Donc finalement, c'est des sujets très très similaires, voire les mêmes sujets. Donc c'est finalement le continuum de mon combat. Et ça représente aussi le fait que c'est un combat qui se mène sur tous les fronts, sur plusieurs aspects, sur l'aspect grassroots, dans la rue, dans le numérique, dans les institutions nationales, européennes, mais aussi internationales. Et ça peut être multifacette, multiforme, multidimension. Et je pense qu'au contraire, c'est en ayant un pied partout qu'on arrivera à faire déverrouiller le système et à trouver des solutions.
Depuis que vous êtes lauréate de ce prix, vous pensez à engranger, à en gagner d'autres, je le dis, à l'instar, par exemple, de Maïmouna Ba, qui, l'année dernière, a remporté, comme vous, ce prix IAS 23, parmi les gagnantes du IAS 23, et qui, cette année 2024, a remporté le prix Nansen pour les réfugiés, version régionale. Vous y pensez, vous aussi, un jour, gagner un autre prix, le Nobel de la paix, on va dire ?
Alors, le Nobel de la paix, franchement, ce serait énorme. Déjà, ici, je ne m'y attendais pas. Alors, Nobel de la paix, je ne sais même pas si on pourrait considérer ça un jour, mais on verra. Mais par contre, il y a déjà un prix qui est sur la route, qui a été annoncé très récemment. Et voilà, c'est le prix Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes. Et donc, j'ai été contactée par la fille de Simone de Beauvoir, qui m'a contactée pour me remettre un prix à moi et à mon association le 9 janvier à Paris de ses mains. Donc c'est un immense honneur et je pense que ça fait notamment suite au Young Activist Summit. Donc le Young Activist Summit nous ouvre des portes et surtout visibilise nos voix, nos combats et c'est une force de frappe énorme et un tremplin énorme.
Merci à vous en tout cas, Chandley Clémaud-McLaren, présidente fondatrice de l'association Stop Ficha, l'une des lauréates de l'édition 2024 du Young Activist Summit. C'était depuis le Palais des Nations ici à Genève. Merci également à toutes et à tous et belle suite de journée à l'écoute de notre antenne radio Cité Genève 92.2 FM.
Merci beaucoup, à bientôt.